Info. Tous les deuxièmes lundis du mois, le Canu Info s'organise en mixité choisie, sans Maxis, pour parler de l'actualité
avec un regard féministe.
Quoi ? On n'a pas le droit d'y aller, ouin ouin, mais c'est du racisme, c'est de la discrimination de l'homme blanc qui pourtant souffre au quotidien.
Sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios.
Non,
les plus rebelles de la radio.
Place n'était pas là, que dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors.
C'est nous qui faisons leur richesse. Et aujourd'hui, s'ils sont en cravate, ils marchent avec des voitures de luxe. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Si nous-mêmes, les femmes, on ne sort pas du silence pour dire stop, parce que c'est nous qui subissons. On les fait enrichir et nous, on ne gagne rien dans nos poches.
Non, ne me demandez pas, non, ne pas me battre pour changer tout ça. De ne pas me battre pour changer tout ça.
Et bonsoir, il est 19h02 et on relance le générique car on l'adore. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous écoutez le Canu Info du lundi en mixité choisie sans mec 6, tous les deuxièmes lundis du mois. On est ravis d'être avec vous ce soir et on annonce tout de suite les titres.
Et à l'international, on va parler de la mobilisation contre les rafles d'immigrés aux États-Unis, puis des dockers mobilisés pour la solidarité internationale de Foss à Gênes et de la flottille en route pour Gaza.
Au national, on parlera du meurtre raciste de Hicham Merawi et aussi des victoires des femmes de chambre du Campanile à Suresnes en région Île-de-France.
Et gros dossier ce soir autour des mémoires, des luttes pour les mémoires. On aura un interview autour des grèves dans les foyers Sonacotra dans les années 70, un doc sur le meurtre de Farid Meshta.
De Nordine Meshta.
Un autre interview avec le collectif L'Association Mémoire Minoritaire pour finir par vous parler des morts et des mortes à la rue.
Et on commence tout de suite à l'international avec la mobilisation contre les rafles aux États-Unis.
Oui, alors ce week-end en Californie, surtout à Los Angeles, se sont déroulées des oppositions massives contre les rafles des polices de l'immigration des États-Unis, nommées ICE. Le comté de Los Angeles, où se déroulent ces révoltes, est le comté le plus peuplé des États-Unis, avec près de 10 millions de personnes, dont plus de 3,4 millions sont nés en dehors des États-Unis. C'est également un des endroits les plus riches du pays, avec des inégalités socio-économiques énormes. Donc les missions de cette police de l'immigration, ICE, sont de rafler, arrêter et déporter les personnes en situation irrégulière. Ces arrestations de personnes migrantes sont des pratiques qui existaient, mais qui se sont largement accélérées et massifiées suite à l'accès au pouvoir de Trump. Les protections qui empêchaient l'ICE, donc la police, d'intervenir dans les écoles, les hôpitaux et les lieux de culte ont sauté. On rappelle que le fascisme s'attaque aux personnes pour leur identité et donc en premier lieu aux migrantes et aux minorités. Depuis des mois, les personnes immigrées aux États-Unis vivent des scènes terrifiantes. Des personnes se sont déscolarisées, ont quitté leurs emplois, vivent complètement cachées. On peut voir sur les réseaux sociaux des courses-poursuites dans la rue entre police de l'immigration et personnes en pyjama. Des personnes qui se cachent et partagent leurs tips, leurs bonnes idées de cachette. C'est même devenu une trend sur TikTok. Toujours sur TikTok, des vidéos alertent en temps réel sur les descentes de cette police ICE, une tendance qui est devenue un véritable outil de survie et de résistance pour des milliers de personnes. Bref, les mesures de Trump font régner la terreur et les communautés tentent de résister et de mettre en place des stratégies de solidarité. Vendredi, donc, toujours à Los Angeles, de nombreux membres de cette police de l'immigration ont mené des actions, parfois en civil, pour rafler des personnes irrégulières. Et notamment dans un magasin de bricolage qui est un lieu où de nombreuses personnes se retrouvent pour chercher du travail. Cette descente a déclenché et suscité une colère très très importante des habitants, habitantes et des travailleurs, travailleuses qui ont encerclé les agents pour tenter d'empêcher les arrestations. En réponse, les agents de l'ICE ont gazé traquer la foule. Ça a déclenché de véritables révoltes contre ces rafles qui ont commencé samedi matin et qui se sont étendues jusqu'à dimanche. des manifestations vives qui ont subi une répression importante à base de lacrymos et de tirs de LBD. Donc il y a eu quand même de nombreux blessés. Et donc évidemment, le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'envoyer l'armée parce qu'il a jugé que les autorités locales, donc californiennes, laissaient prospérer l'anarchie. Et donc il a déployé quand même 2000 membres de la garde nationale. Donc voilà, donc on reste en soutien à toutes ces révoltes des personnes migrantes et de leur soutien aux États-Unis, et on a hâte d'avoir des nouvelles de ces mouvements-là.
Et toujours à l'international, on part cette fois vers les dockers mobilisés de Fos-sur-Mer.
Et oui, jeudi 5 juin, les dockers de Fos-sur-Mer ont refusé de charger deux conteneurs d'armement à destination d'Israël. Dans un communiqué, la CGT des ouvriers dockers et des personnels portuaires du golfe de Fos indique qu'un conteneur devait embarquer des pièces détachées pour des fusils mitrailleurs à destination du port d'Haïfa. Le refus des travailleurs d'embarquer le conteneur sur le bateau a contraint celui-ci à quitter le port sans son chargement. Le lendemain, ce sont les travailleurs du port de Gênes qui ont pris le relais. Informés par leurs collègues français, les dockers italiens, regroupés au sein d'un collectif autonome des travailleurs portuaires, le CALP, se sont rapidement mobilisés. Pour rappel, ce collectif est né de mobilisation en 2019 pour bloquer les cargaisons d'armes saoudiennes destinées à la guerre au Yémen. On salue le refus des travailleurs des ports partout dans le monde de participer au génocide en cours à Gaza. Face à la barbarie, la solidarité internationale est notre arme.
Et on continue toujours sur la situation à Gaza.
Et oui, tout à l'heure à 17h, une foule massive était rassemblée à Lyon devant l'hôtel de ville pour protester contre l'arrestation du navire humanitaire Madeleine et de son équipage par Israël en eau internationale. Le bateau tentait de rallier Gaza pour contrer le blocus humanitaire. On écoute tout de suite un petit son de ce rassemblement.
Nous demandons, nous les Juifs, qu'on libère la flottille de Gaza. Suite à l'arrestation illégale de 12 humanitaires et activistes pacifistes, dont l'eurodéputée française Rima Hassan et la militante suédoise Greta Thunberg, l'UGFP appelle à rejoindre les mobilisations et toute initiative pouvant agir pour la libération de la flottille.
Palestine ! Palestine ! Palestine !
La prison de Mogadiscio, c'est une prison de torture, c'est un centre de torture. Et dans ces prisons-là, actuellement, il y a le plus jeune prisonnier, qui, palestinien évidemment, il a 6 ans. 6 ans.
Palestine, 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 Palestine.
Et en effet, le voilier, donc avec à bord 12 militants et militantes de France, Allemagne, Brésil, Turquie, Suède, Espagne et Pays-Bas, était parti d'Italie le 1er juin pour briser le blocus israélien à Gaza. Il a été dérouté dans la nuit, donc de dimanche à lundi, c'est la nuit dernière, par les autorités israéliennes qui ont invité ces passagers à retourner dans leur pays. Donc le voilier fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays, a donc indiqué le ministère des Affaires étrangères. Solidarité avec ces stars militantes qui tentaient avec leur importance médiatique de faire quelque chose pour la situation. Et on voit que dans les rassemblements, on parle toujours de la situation de manière générale d'Israël. Et d'ailleurs, on rappelle que le 16 mars 2003, Rachel Corrie, qui est une internationale, a été tuée par un bulldozer qui, en tentant de s'interposer face à la destruction d'une maison de Gazaoui. Et en 2010, une flottille internationale de 8 cargos transportant près de 700 passagers partis de Turquie pour tenter de forcer le blocus de la bande de Gaza avait été stoppée par une opération militaire israélienne et qui avait fait 10 morts. Toujours aujourd'hui dans l'actualité, il y a un convoi de plus de 200 Algériens et Algériennes qui a quitté Alger aujourd'hui, en direction du poste frontière de Rafah en Égypte pour briser le blocus de Gaza. Ce convoi, qui transporte de l'aide humanitaire et médicale, rejoindra celui de la Tunisie dans le cadre du convoi international pour toujours donc dans ce but commun de briser le blocus imposé par l'entité de la bande de Gaza. Donc on reste aussi au courant de toutes ces missions humanitaires et politiques autour de la bande de Gaza.
Et au national, tout de suite, on vous parle d'un meurtre raciste.
Le 31 mai, oui, vers 22h, Christophe Belghembe, 53 ans, a tué son voisin Hichem Mirwahi, quarantenaire tunisien, en lui tirant dessus à plusieurs reprises. Il avait déjà proféré à son encontre de nombreux propos racistes et il a publié avant et après son acte plusieurs vidéos racistes sur Facebook. Christophe Belghembe a été incarcéré. Il a reconnu son crime tout en contestant l'aspect raciste et a été mis en examen jeudi pour assassinat terroriste en raison de l'origine. Il y a environ 2000 personnes qui ont participé hier à deux marches blanches, l'une le matin à Marseille et l'autre l'après-midi à Puget-sur-Argent dans le Var, où a eu lieu cet attentat raciste, en hommage à Hichem Mirwahi. Avec le récent meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé, malien de 22 ans, tué de dizaines de coups de couteau dans une mosquée du Gard, on fait face donc à une intensification des crimes racistes, pour laquelle, évidemment, de nombreuses personnes actuellement au pouvoir ou en mandat portent une lourde responsabilité avec leurs propos racistes et islamophobes incessants, à commencer par nos deux sinistres de l'intérieur successifs, Darmanin et Retailleau. En effet, comme le dit très bien l'avocat de la famille d'Hichem Mirwahi, lorsqu'on dit « abat le voile », on dit « abattre ». Lorsqu'on parle de submersion migratoire, on désigne l'étranger comme un ennemi. Lorsqu'on parle d'ensauvagement, on place l'étranger comme n'étant pas l'égal du français. Mais malheureusement, les crimes racistes ne datent pas d'hier, comme on le verra dans notre dossier du jour sur les mémoires des luttes, avec une interview du frère de Nordine Mejta, tué par la police en 1985.
Et toujours dans l'actualité nationale, une petite victoire des femmes de chambre du campanile de Suresnes.
Oui, elles étaient en grève depuis 9 mois pour l'augmentation de leur salaire avec indexation sur l'inflation, pour une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat et pour la réintégration d'une collègue injustement licenciée et de meilleures conditions de travail. La direction avait mis le feu aux poudres en licenciant une salariée en son absence, alors qu'elle était bloquée à l'étranger après avoir perdu ses papiers. À son retour, la salariée qui ne savait même pas qu'elle avait été licenciée était retournée au travail et la direction avait appelé la police pour la faire sortir de force de son lieu de travail. C'est suite à cet événement que les femmes de chambre de l'hôtel première classe de Suresnes se sont mises en grève le 19 août. Et malgré le mépris puis la répression de la direction, qui a saisi du matériel syndical, recouru à des contrôles de police pour tapage, jusqu'à l'arrestation de deux salariés en lutte avec 6 heures de garde à vue pour une prétendue agression sonore, elles n'ont rien lâché et elles ont finalement signé un protocole d'accord de fin de conflit mi-mai. Elles ont obtenu la réintégration de leurs collègues, le passage à temps complet pour toutes, des formations notamment pour l'apprentissage du français, une expertise pour l'amélioration des conditions de travail, le paiement de 10 jours de grève, le report des congés non pris pendant la grève et des réunions de dialogue régulières avec la direction. De quoi souffler et bien se préparer en vue des négociations annuelles obligatoires qui auront lieu au niveau du groupe, cette fois Louvre Hôtel, qui a un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, où sera donc négociée l'augmentation générale des salaires.
Et à l'occasion de cette émission spéciale mémoire, on va vous proposer deux récits de lutte qui ont été collectés dans le cadre d'un projet de collecte de mémoire des luttes de l'immigration postcoloniale à Lyon depuis les années 70. Ce projet, il s'appelle Ne plus raser les murs, il est porté par l'association Tilantia. Il y a déjà eu plusieurs expositions physiques, hein, sa déclinaison numérique sous forme de web doc sera disponible à l'automne. Mais parce que les luttes d'aujourd'hui et d'hier résonnent entre elles, on vous propose en écho à la lutte des femmes de chambre du campanile de Suresnes d'écouter le récit d'une grève de 50 femmes de ménage immigrées de l'INSA, donc l'école d'ingénieurs, qui s'est déroulée entre mars et mai 1979. Ces femmes sont alors employées par la SIN, la Société Industrielle de Nettoyage, qui est donc une entreprise sous-traitante de l'INSA. Et oui, déjà, elles ont un travail particulièrement pénible avec des rémunérations très faibles. Leur contrat de travail s'arrête aux vacances scolaires d'été et reprennent en septembre. Elles doivent donc faire face au chantage à l'emploi de la part de leur employeur, au racisme quotidien et à la menace d'expulsion. On écoute tout de suite 11 francs 30 de l'heure.
On se lève à 4h30 le matin pour rendre le bus et commencer le travail. Ça commence à 6h du matin et jusqu'à 8h à toute vitesse. Il faut faire les classes, les locaux administratifs et les locaux communs. Les chefs, ils nous mesurent notre temps. De 8 à 8 à midi, il faut faire chacune d'entre nous 17 chambres et le ménage à fond. Il faut nettoyer la tablette à dentifrice, le lavabo, la glace, vider la poubelle et laver les cendriers. Puis encore balayer, faire la poussière et laver par terre. Il donne un demi-berlingot de javel par semaine. On en passe.
Elles sont femmes, elles sont immigrées, elles sont intérimaires. Employées pour 11 francs 30 de l'heure pour faire le ménage dans les locaux de l'INSA, elles vont mener une lutte acharnée pour l'amélioration de leurs conditions de travail. À la fin des années 70, la société industrielle de nettoyage, la CINE, a un contrat de sous-traitance avec l'INSA, la grande école d'ingénieurs de Villeurbanne. L'entreprise emploie de nombreuses travailleuses immigrées. Exploitées durant les 8 mois de l'année universitaire, sans aucune couverture sociale, elles se retrouvent sans emploi durant les 4 mois de vacances d'été. Le 13 mars 1979, après d'infructueuses tentatives de négociation avec la CINE d'une part et la direction de l'INSA d'autre part, elles entament une grève offensive. Elles sont 40 à tenir ce jour-là un piquet de grève de 6h à 8h. À partir du 20 mars, le piquet se tiendra chaque jour. Ces femmes, cantonnées à l'invisibilité, lèvent la tête et réclament une augmentation de salaire, 14 francs de l'heure, le remboursement complet de leurs frais de transport, du travail toute l'année ou, à défaut, le chômage lors des vacances, et enfin, les mêmes droits que les autres employés de l'INSA. Le campus n'a jamais connu une telle mobilisation. Pourtant, la direction de l'INSA, comme de la CINE, font la sourde oreille. Les liens avec les étudiants se tissent petit à petit. Le 4 avril, ces derniers entrent en lutte et exigent des négociations auprès de Raymond Hamelin, le directeur de l'INSA. Les négociations commencent le 6 avril, mais ne débouchent sur rien de concret. Les piquets de grève sont maintenus. Le 3 mai, le mouvement s'embrase. Hamelin fait déplacer le conseil d'administration au rectorat par peur des perturbations. En réponse, les grévistes, accompagnés des délégués CFDT et d'une centaine d'étudiants, envahissent le conseil restreint qui se tenait le matin même. Ils demandent à mettre le sujet CINE à l'ordre du jour du CA. Face au mépris de Hamelin, les grévistes l'empêchent de sortir pendant 2 heures. L'après-midi, au conseil d'administration, aucune mention de la CINE. Les élus syndicaux partent en signe de protestation. Le soir, les étudiants décident donc d'occuper l'administration. Occupation vite délogée par la police qui interpelle 23 étudiants. Hamelin porte plainte contre ces derniers, mais aussi contre des femmes de ménage, qui se mettent alors en grève totale, tandis qu'une âgée étudiante vote la grève générale. Le 10 mai, une manifestation est organisée. Plus de 1000 personnes y participent et une fête de soutien est donnée à la Bourse du Travail. Le lendemain, c'est l'ensemble du personnel de l'INSA qui se met en grève. Puis le 13 mai, 25 étudiants entament une grève de la faim. Les jours suivants, Hamelin concède quelques avancées. Le 17 mai, il accepte de retirer sa plainte. Les cours reprennent, mais les femmes de ménage, déterminées, poursuivent leur grève. Après plus de 3 mois de conflit, elles obtiennent enfin une garantie d'emploi pendant les vacances scolaires et une revalorisation de leur salaire. Mais la grève ne permet pas de mettre fin à la sous-traitance. Quelques mois plus tard, certaines perdront même leur emploi. Cette grève restera gravée dans l'histoire des luttes des femmes de ménage comme une lutte exemplaire. Exploitées, sous-traitées, méprisées, aujourd'hui encore, des travailleuses de l'ombre mènent des luttes déterminées pour l'amélioration de leurs conditions de travail.
Et vous venez d'écouter 11 francs 30 de l'heure, un récit écrit et réalisé par Jordan Burneau et Sébastien Linard avec les voix de Marie Brugère et Aroussia Lini. Et c'est Tazi Bourari qui chante 404 d'Arla pour la bande son.
Et on continue avec le dossier du jour où on va parler des mémoires. Donc l'historien Pierre Nora est mort il y a pile une semaine et en hommage à ce vieux réac, on a décidé de faire une émission spéciale sur la mémoire. Alors non, vraiment, c'est pas tout à fait ça, c'est pas un hommage à Pierre Nora qu'on va faire aujourd'hui, c'est un dossier spécial sur les mémoires des luttes, de réfléchir à comment mettre en perspective le passé des événements militants, des lieux, des gens, des mobilisations. La mémoire, c'est une matière compliquée à aborder, très utilisée politiquement. C'est la matière dont socialement un groupe se souvient d'événements passés et le met en valeur ou le passe sous silence. C'est ce qu'on appelle les usages sociaux du passé. La mémoire, c'est une matière explosive, sans cesse controversée, hyper politique. La grande question, c'est qu'est-ce qui fait mémoire? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on cache? Par qui et où? Autant vous dire que la question est vaste et c'est pour ça qu'on a une émission tout aussi vaste. La question de la transmission des luttes et de la mémoire, elle est très importante parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être super de ne pas réinventer le fil à beurre de nos luttes tous les 3 ans. Et d'ailleurs, c'est la journée internationale des archives aujourd'hui. Et les archives, c'est la base de la construction de la mémoire. Qui conserve nos tracts, nos archives, nos affiches, nos émissions? Et quel travail militant est important à faire autour de ça? C'est justement ce que font nos invités aujourd'hui et à qui on laisse la parole.
Et oui, on accueille tout d'abord Nino du collectif DAL 69, collectif qui a fait un travail remarquable de mémoire autour des luttes des foyers Sonacotra partout. Donc déjà, merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
On a fait une interview spécifique sur cette brochure le 17 mars, hein, je le dis parce que vous pourrez aller réécouter. On en parle plus en détail dans le cadre de cette émission-là. Mais est-ce que quand même pour les auditeurs et auditrices qui ont raté cette belle interview, il y a des personnes qui ne sont pas très assidues au Canu Info, on l'a remarqué. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette brochure?
Bien sûr, et surtout de la lutte, parce que donc, c'est ça qui est écrit dans la brochure majoritairement. Et en gros, les foyers Sonacotra, ça veut dire Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs Algériens. Les foyers sont fondés donc, en plein milieu de la guerre d'Algérie en 1952. C'est un organisme semi-public qui gère plus de 275 foyers en France, qui héberge environ 70 000 travailleurs. Ces foyers ils témoignent d'une ségrégation par le logement en France et de la continuité coloniale sur le territoire avec le logement comme instrument de contrôle. La lutte des foyers Sonacotra, c'est tout d'abord un mouvement sporadique de grève des loyers, qui démarre dans quelques foyers à partir de 1969 pour montrer d'abord son désaccord avec le règlement intérieur très strict et liberticide, les augmentations constantes des loyers et les conditions indignes et insalubres des foyers que les grévistes appelaient d'ailleurs les foyers prison. Ensuite, à partir de 73, on fait face à un mouvement qui se coordonne et se massifie avec l'adoption d'une plateforme revendicative et du comité de coordination en 1975. À partir de là, on a de plus en plus de foyers qui rejoignent la lutte, la répression s'accélère en même temps. La Sonacotra fait expulser du territoire 16 représentants des résidents, ce qui va entraîner une mobilisation encore plus massive pour le retour des grévistes et près de 25 000 personnes qui manifestent à Barbès en avril 1976. Ensuite, en 78, on compte entre 20 000 et 30 000 résidents qui font la grève des loyers et plus de 100 foyers mobilisés dans toute la France. Donc c'est environ plus d'un tiers des foyers de la Sonacotra. Il y a un refus systématique des ingérences partisanes et syndicales dans le comité de coordination. Donc c'est une organisation totalement autonome, réalisée par les résidents eux-mêmes, malgré plein de soutiens extérieurs. Face à l'ampleur de cette mobilisation, la répression elle se durcit. La Sonacotra commence les saisies sur salaire des grévistes, expulse les foyers en grève, puis les campements qui sont montés en face des foyers après leurs expulsions. Et à partir de 79, donc près de 10 ans de lutte, c'est l'interdiction officielle du comité de coordination et la fin du mouvement. Donc voilà, il y a plus de détails dans la brochure, n'hésitez pas, vous pourrez la trouver.
À la consulter.
Exactement, sur Info Kiosque, Rébellion et d'autres sites.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous avez travaillé pour produire cette brochure?
Alors, on a déjà travaillé à plusieurs, donc tous les membres du collectif, en se réunissant. Cette envie de faire une brochure, elle émanait d'une réflexion collective autour des luttes du passé, précisément les luttes du logement, parce qu'on en avait très peu en mémoire. Et on a décidé de se pencher sur la lutte Sonacotra, parce que certains et certaines d'entre nous avaient brièvement entendu parler de cette grosse mobilisation. Ensuite, on a réfléchi à ce qu'on voulait produire. C'était super important pour nous de s'éloigner des récits académiques et de faire une brochure accessible, relativement courte, qui revenait sur la lutte, tout en y rajoutant du coup notre analyse politique. Et c'était super en faisant cette brochure parce qu'on a tous et toutes des manières très différentes de bosser, d'écrire et des intérêts particuliers à certains aspects de la lutte. Et ensemble, ça nous a permis de faire quelque chose de, qu'on trouve en tout cas relativement complet. Tout le monde a participé à l'écriture, à la réflexion ou à la mise en page. On a écouté... la question c'était les sources, et c'est surtout ce qu'on a trouvé sur internet, ça regorge de pépites. On a écouté beaucoup d'interviews d'anciens grévistes et de soutiens de la lutte, on a lu les anciens numéros de la revue Camarades, les numéros qu'on a pu trouver du bulletin d'information des foyers Sonacotra en lutte, mais aussi des tracts, affiches produites par les grévistes et par les différents comités de soutien. Et un des gros fonds d'archives qu'on a poncé, c'est celui de Saïd Bouziri, militant tunisien qui est une figure des luttes de l'immigration en France et qui a donné énormément de ses archives. Et il a conservé surtout beaucoup de documents pendant son activité militante, et surtout sa femme qui a fait ce taf, parce qu'il faut garder à l'esprit toutes les dynamiques de genre dans la constitution des fonds d'archives.
Et alors pourquoi selon toi c'est important de constituer cette mémoire, que ça soit qu'elle émane de nous, et pourquoi on ne doit pas laisser le récit de nos vies, de nos luttes aux dominants, à ceux qui font l'histoire officielle?
C'est important, d'abord parce qu'on ne peut pas lutter sans savoir ce qui s'est passé avant. Faut qu'on ait les yeux un peu ouverts, de voir aussi ce qui a fonctionné par le passé et ce qui n'a pas fonctionné surtout, pour tirer des leçons. Et Hassan Ba, qui est un ancien gréviste sénégalais des grèves Sonacotra, il a dit dans une de ses interviews, et je voulais le citer rapidement, « On imagine que l'histoire commence avec soi, qu'avant ce n'était pas l'histoire. Bien sûr, chaque lutte a son identité, qu'il faut respecter, mais pendant le mouvement, je n'ai pas pris le temps d'écouter les gens dont j'ai su plus tard qu'ils avaient mené des luttes importantes dans des secteurs donnés. » Je trouvais ça super intéressant, et c'est vrai qu'être capable d'intégrer des expériences des autres, de celles et ceux qui ont lutté avant nous, c'est un plus pour nos luttes, et pour ça il faut qu'elles soient transmises au sein de nos cercles militants et au-delà. Et pour la question des luttes au profit de la mémoire des luttes qui est faite par les dominants, on voit toutes les mémoires un peu légitimes, genre la Révolution française ou la Résistance. C'est des mémoires qui en plus ont été reconstruites, remises au service du pouvoir, complètement vidées de leur essence révolutionnaire. Et à l'inverse, plein de mémoires qui n'ont pas leur place dans les livres d'histoire. On imagine peu une mémoire des Gilets jaunes apprise à l'école.
Et c'est quoi un peu les outils qu'on a à disposition, nous militantes et militantes, ou les personnes invisibilisées, pour s'approprier notre histoire et la diffuser?
Alors déjà, il y a énormément de choses sur Internet. C'est un vivier assez chouette pour trouver les archives en ligne. Il y a InfoKiosque qui conserve plein de brochures qui ont été écrites en France ou à l'international. Et ensuite, il y a surtout les centres de documentation autogérés. Moi, j'encourage tout le monde à se tourner vers ce genre de lieux qui conservent énormément d'anciennes revues, de tracts et toutes traces audiovisuelles des luttes du passé. C'est des lieux qui font des tafs de dingue pour conserver tout ça et le transmettre. Je pense particulièrement à Mémoire Minoritaire, qui en plus vont parler juste après, mais aussi à d'autres lieux.
Incroyable.
Tout est lié. Et d'autres lieux comme La Griffe, où, il y en a un peu partout dans vos villes, où que vous soyez en France en train de nous écouter, allez les voir. Et ensuite, surtout, c'est super que ces lieux existent, mais il faut surtout initier ce travail au sein de nos collectifs et organisations militantes, réfléchir à ce qu'on fait de nos archives, où on les dépose, pour pas qu'elles soient donc récupérées par les institutions, ou juste qu'elles disparaissent dans la nature avec le dernier mohican qui restera à la fin de notre collectif. Et puis au-delà de la conservation, la question c'est la diffusion. Il y a plein de moyens différents à nos dispositions. Il y a encore une fois les réseaux, les pages des réseaux sociaux, où il y a des bons boulots. Il y a Mémoire de nos luttes qui fait un taf incroyable, InfoKios comme j'ai déjà dit, et puis aller diffuser les films et documentaires qu'on a fait, déposer des brochures partout où on les trouve, organiser des moments de commémoration, se réapproprier un peu toutes les méthodes de mémoire qu'on connaît.
Eh ben merci beaucoup, et pour continuer là-dessus, justement, on va diffuser de nouveau une petite interview une grosse interview qui est issue donc du projet Ne plus raser les murs, qui tente de donner la parole aux luttes de l'immigration postcoloniale à Lyon. Et donc c'est en écho encore à l'actualité, à la triste affaire de Hichem Merawi dont on a parlé tout à l'heure. On vous propose un petit retour dans les années 80 qui ont vu malheureusement de nombreuses affaires similaires. C'est une période un peu particulière puisqu'au tournant des années 70-80, c'est la crise, le chômage de masse et donc les luttes d'immigrés qui jusqu'à présent étaient majoritairement des luttes autour des conditions de travail, elles vont se transformer, notamment en s'ancrant territorialement dans les quartiers populaires. À Lyon, on a évidemment l'exemple en 83 de la marche pour l'égalité contre le racisme qui fait suite à la répression brutale des jeunes déminguettes durant l'été par la police. Mais c'est aussi une période, surtout, où les crimes racistes sont très nombreux dans l'agglomération. On pense à Ahmed Boutelja, tué le 28 septembre 82, ou Aïda Chichi, tué le 18 octobre 1982, à l'âge de 18 ans, par un policier qui n'était pas en service, juste dans le centre-ville de Lyon. Mohamed Abidou, qui est tué par balle par un policier en novembre 82, Bardet Barka, tué à l'âge de 15 ans, encore par un policier le 6 mars 85, Aziz Bougueza, tué dans la nuit du 17 au 18 juin 87 par des gendarmes à Mions, ou encore Abdallah Bouafia, torturé jusqu'à la mort par quatre vigiles dans la nuit du 24 au 25 novembre 1989. La liste n'est pas complète et c'est seulement sur les années 80. Tous ces crimes vont aussi voir l'apparition de nombreux collectifs d'autodéfense comme les JALB, Jeunes Arabes de Lyon et Banlieue, dont on va parler dans le témoignage qu'on vous propose d'écouter maintenant. Il s'agit du récit de Farid Mejta, le frère de Nordine Mejta, tué le 29 septembre 1985 par trois vigiles d'une péniche boîte de nuit lyonnaise, le Frédéric Mistal. On écoute tout de suite son témoignage.
Je m'appelle Farid Mejta. J'ai fait partie il y a très 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 longtemps des JALB, il y a pas mal d'années. J'ai perdu mon frère à l'époque, c'est là que ça a démarré mon histoire avec les JALB. J'avais 17 ans et demi à peu près, oui. 17 ans et demi et j'étais pas du tout militant. J'étais plutôt à la sortie d'école. L'avant-veille, on avait fêté l'anniversaire de mon frère. On était invités avec mes cousins, les amis, tout ça autour. Et c'était dans, ils avaient convenu de louer une salle qui était à Saint-Jean. C'est le lendemain que j'ai su que mon frère était à l'hôpital et était décédé. L'effet, c'est que un de ses amis, qui était Karine à l'époque, Karim à l'époque, était sorti de la fête. Il était parti là-bas pour essayer de rentrer parce qu'il savait qu'il y avait là-bas, il y avait. On pouvait faire la fête, il y avait aussi des personnes connues là aussi qui allaient là-bas aussi, à la péniche. Et les videurs, le voyant resquillé, je pense, ils ont dû le prendre la grippe, tout ça, et non, ils l'ont pris comme un chien, ils l'ont balancé dans la Seine, dans le Rhône, excusez-moi. Et là, après, tranquillement, ils sont revenus à leur travail normal. Et bon, il y a pas trop de. Il y a la chance qu'il n'y ait pas eu trop de courant, sinon ils seraient. Serait parti avec le courant et on n'aurait peut-être pas retrouvé. Comme il était très énervé de voir qu'il s'est fait balancer comme un chien, et il est retourné à Saint-Jean, là, qui n'était pas très loin. Comme mon frère qui était là, qui avait entendu, il a dit non, écoute, moi tu restes ici, tu vas te changer. Moi je vais aller voir les videurs, je vais essayer de voir où le responsable de la péniche. Moi je pense que c'est comme ça qu'il fait, parce que moi je connais mon frère, il aurait réagi comme moi, je pense, parce qu'on était assez fusionnés. Et il aurait demandé de demander des explications, pourquoi on balance un être humain comme ça sans que personne n'intervienne. Il lui dit, bah tu vas voir. Et ils sont partis prendre des armes qui étaient garées dans la voiture. En plus il y a des armes dans la voiture. Et mon frère, voyant que ça commençait à être chaud pour lui, voyant, il est parti, il s'est sauvé. De loin, il a dû voir une allée qui était ouverte. Un voisin qui était en haut, il a vu les trois videurs qui couraient. Il leur a dit d'en haut, il a dit, bah, écoute, parce qu'il a vu la scène que mon frère était rentré dans l'allée. Il lui a dit, bah, écoute, il est là. Il les a ouverts et après ils l'ont fermé derrière et ils l'ont bloqué, il y a trois, plusieurs coups de couteau, d'un couteau d'une épaisseur de comme ça, et comme une machette. Il est mort, je sais pas si c'était dans l'ambulance ou dans l'hôpital exactement, mais ça a été fatal pour lui parce qu'il avait trop perdu de sang et ça a touché le cœur aussi. Déjà le lendemain, ça a été compliqué parce que tout le monde était en larmes. Moi, j'avais été effondré. Ma mère qui était complètement shootée par les comprimés pour la calmer. Il y avait du monde à l'appartement. C'était deux pièces. Et je ne sais pas combien de personnes qui étaient à l'intérieur. C'était horrible à vivre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Gida était venue chez nous. Voilà, je me rappelle. Elle était venue chez nous. Comme nous, on ne connaissait pas, j'avais conseillé de porter plainte. Elle m'a dit, viens, on est l'association des JALP, tout ça. C'est là, ouais, c'est vrai. Ça me revient, parce qu'il y a des choses que j'essaie de... Enfin, j'essaie, parce que c'est assez compliqué, c'est assez, dur de me rappeler, mais il est faux. Elle était venue le deux ou trois jours après, parce que pour nous souhaiter la condoléances, la famille, tout ça. Et après, de dire... d'aller porter plainte tout de suite parce que sinon après plus on attend plus c'est on ne savait pas ce qui était juridique tout ça. Il n'y a pas de problème, vous accompagnez au commissariat, tout. On est parti au commissariat et la police a été infecte, horrible. On nous a traités comme de la merde. Oui, mais votre frère peut-être il a fait quelque chose aussi, des trucs comme ça, des pics, hein. Nous on était là pour porter plainte, on n'était pas là pour qu'il ne porte un jugement, savoir qui ce qu'il a fait ou pas fait. On était des victimes, on n'était pas des coupables. Ah ben le procès, ça a été horrible. Hein. Ça a été les médiatiques. Il y a eu beaucoup de journalistes autour, des charognards pour certains. C'était comme s'il y avait le procès de Barbie ou je ne sais pas quoi. Je sais qu'il y en avait un qui avait pris 5 ans avec sursis. Un autre qui avait 10 ans. Avec sursis aussi. Et les deux autres, ils étaient quatre. Ils ont pris 15 ans, à peu près, mais avec... voilà, ils n'ont pas fait la peine encourue. Ben, bien sûr, c'était des ténors du barreau. Nous, on est des pauvres gens, insignifiants, des Arabes en plus.
On va revenir un peu en 85, donc oui. Juste après le crime. Il y a une manifestation le 5 octobre 85. Vous savez, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
5 octobre 85, il y avait du monde, c'est vrai. Ça a été suivi un peu partout en France parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation avec d'autres associations qui n'est pas que les JALP aussi d'ailleurs. C'était quand même touchant de voir de jeunes, vieux, personnes âgées. Si j'aurais pas été militant, même si c'était pas dans les JALP, ça m'aurait perdu quelque part. J'aurais mal fini. Parce que c'est vrai que mes frères et sœurs, ils ont eu l'échec des scolaires. Ça détruit une famille, hein. Il n'y a pas que le meurtre de mon frère. Hein. Je souhaite à personne ce qu'on a vécu. Je ne pouvais pas travailler. Alors je faisais toutes les journées là-bas où je comptais pas mes heures. 12h, 15h, 20h. Je peux même dormir là-bas. Je me sentais bien. J'avais besoin, sinon ça me revenait dans le passé, qui me revenait à la figure.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du procès du meurtrier d'Ahmed Boutelja? Donc son crime, ça a été le 28 septembre, oui. 82. Le procès, c'est en 1985. Est-ce que vous pouvez commencer par déjà ce procès-là en détaillant un petit peu?
C'était pareil, les flics pareil, odieux pareil, le juge qui a été complètement... indifférent à cette personne-là qui est décédée. Quand on a eu l'issue du verdict, on a à peine 5 minutes avec les matraques. Parce que comme c'est parti par la sœur qui a hurlé de douleur et la mère qui était tombée dans les pommes. Et les flics qui sont venus vers la mère et nous, on était pour la protéger. Ah, c'était comme ça à l'époque, malheureusement. C'était sans pitié. Ouais, on n'avait aucun droit. Parce que c'est l'effet boomerang, c'est ça. Quand il y a un procès qui est minable, c'est normal, après on justifie le meurtre. Toi, tu es du Front National ou tu n'aimes pas la comité en général, tu sais que tu ne vas pas prendre, alors vas-y, tu es un arabe, c'est normal. C'est normal qu'après des gens qui sont des opinions extrémistes puissent dire on va tuer en toute impunité. Avec l'aval des juges et voilà, je sais pas.
Comment vous voyez un peu maintenant ces luttes-là contre les crimes racistes? Quel bilan vous tirez de tout ça aujourd'hui?
Sincèrement, il n'y a pas d'avancée malheureusement. C'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. Ils font pas leur peine les personnes qui sont en prison. Même des policiers quand ils tuent un arabe. Et là maintenant l'État justifie le crime pour un policier. Hein. Un policier peut tuer gratuitement.
Un policier peut tuer gratuitement et faire le travail de mémoire, c'est aussi pas oublier ses meurtres, pouvoir les commémorer encore aujourd'hui. Ce travail-là, il se fait dans plein de cadres différents, on en a cité certains, c'est souvent des cadres associatifs. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux militants militantes, Fanny et Marguerin, de l'association Mémoire Minoritaire. Et ça va être le moment de voir comment est-ce qu'on fait concrètement pour récolter ces archives-là et, comme on l'a déjà dit, pour les faire vivre. Peut-être pour commencer déjà, bonsoir.
Salut.
Bonsoir.
Eh bien, est-ce que vous voulez commencer par nous présenter tout simplement qu'est-ce que c'est Mémoire Minoritaire concrètement?
Mémoire Minoritaire, c'est un collectif, une association même, qui a pour objectif de collecter, transmettre... tout ce qui tourne autour des cultures queer, mémoire queer dans la région lyonnaise, globalement. Du coup, pour ça, Mémoire Minoritaire, c'est un centre d'archives, une bibliothèque et plein d'événements autour des événements culturels, autour des mémoires queer de manière générale. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut que je détaille.
On va peut-être détailler tout à l'heure, mais peut-être pour continuer, est-ce que c'est ancien typiquement? Est-ce que ça fait longtemps qu'on récolte, collecte ces archives, ces mémoires?
Alors pour nous, c'est depuis 2017, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y en a peut-être qui l'ont fait avant. Mais peut-être que tu peux en parler, Marguerin, des débuts puisque...
C'est ça. C'est, l'association elle a été montée en 2017 à l'occasion d'une expo qu'on avait faite à la bibliothèque de Jean Massé pour les 50 ans de mai 68. Et c'est un peu à cette occasion-là que l'association s'est créée. Et l'idée, c'était un peu de récolter et de rendre visibles des lieux de conservation qui existaient déjà à Lyon, comme les archives du planning familial, celle du CEDRAT et également celle de la bibliothèque municipale de Lyon avec le fonds Michel Chomara. Et en fait, on a pioché un peu dans tout ce fonds-là pour donner à voir un peu ce qui s'était passé à Lyon en mai 68 et dans le sillage de mai 68 les années d'après. Et l'asso, elle s'est montée de manière un peu organique, un peu fluide. C'est beaucoup d'histoires d'amitié, c'est beaucoup de petites obsessions et de petites lubies, pas forcément pour l'histoire, mais je pense des trucs un peu nerds de collection et des choses très liées au plaisir que ça suscite aussi de piocher dans les vieux papiers et les vieilleries et les vieux cartons, quoi. Du coup, ça démarre vraiment, en vrai, ça démarre vraiment de ça à la base. Et après, l'intérêt militant, je pense qu'il s'est imposé. Enfin, il y a une réflexion qui s'est faite un peu comme ça, mais au départ, il y avait vraiment un petit côté vraiment très, très plaisant et joyeux à se connecter à un passé, à des gens qui ont existé, et puis aussi à la ville. Enfin, le fait d'aller piocher dans une mémoire des luttes qui était liée à Lyon, c'était aussi très plaisant pour nous. Là, j'ai complètement divagué. C'était quoi le début de la question?
C'était un collectif ancien, mais t'en as raconté le début. Ouais. Et en même temps, ça montre aussi comment ça pop aussi à des moments donnés et comment on se raccroche à du passé à un moment donné où on a envie de faire du lien. Et du coup, j'ai l'impression que vous avez fait ce biais-là en passant par les archives. C'est quoi une archive et c'est quoi des archives communautaires?
Et ça peut être par exemple. C'est tout.
C'est tout. Mais c'est vrai qu'on a un petit slogan, c'était qu'on a piqué au Front homosexuel d'action révolutionnaire, c'est ce que nous voulons tout. Et c'est vrai que les archives qu'on collecte, elles sont communautaires. Enfin, elles sont aussi impures dans le sens où c'est pas ce que vont C'est parce que les archives officielles, départementales, municipales vont voir. Enfin, c'est pas dans leur radar forcément. C'est beaucoup de choses qui peuvent être un peu vulgaires, un peu porno, un peu choquantes, ou même des papiers qui n'ont pas forcément de sens ou qui sont pas visibles autre que par un œil queer, je dirais, quelque chose comme ça. Donc l'intérêt de les conserver, c'est parce que justement parce qu'elles sont en dehors des radars, elles vont finir à la poubelle. Peut-être c'est un peu ça l'objectif de l'association.
Et concrètement, du coup, comment est-ce qu'on fait une gestion militante des archives ? Est-ce qu'il y a besoin d'être archiviste ? Comment vous faites concrètement ? Ça veut dire quoi construire un centre d'archives ?
Vaste question. Non, nous on n'est pas archivistes. On est tous bénévoles. Alors certains ont des intérêts vraiment particuliers pour les archives, etc. Mais on n'a pas une formation académique d'archiviste. Après, ça nous arrive d'être chercher des formations par-ci par-là, parfois par des archivistes. Mais non, on est tous queer. Mais je sais pas ce que je peux dire de plus, moi.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas. C'est une association qui plaît pas mal. Il y a l'ENSIB à Lyon quand même. Du coup, il y a beaucoup de. On est aussi une bibliothèque, faut dire. Donc, il y a beaucoup d'étudiants en bibliothéconomie qui nous rejoignent. Des archivistes pros qui ont pu passer un peu, mais justement qui nous ont fait vraiment de la transmission de savoir dans la collecte et la conservation. La note locale, il est à Grande Zéro, dans le petit bâtiment où il y a différents ateliers. Donc on a une petite salle et on a des cartons. Enfin, on a de quoi faire les choses de manière, on va dire, semi-professionnelle et de prendre soin des documents. Quand on reçoit un fonds, donc c'est des personnes qui nous contactent et qui nous font un don. Donc ça va être par exemple le seul fonds qu'on a vraiment traité de A à Z, c'est celui de Françoise Prouvoyeur, qui est une militante lesbienne féministe lyonnaise qui a pris contact avec nous et qui nous a cédé des fanzines, des vinyles, des tracts qu'elle a collecté depuis les années 60-70 et entre l'Europe et l'Amérique du Nord parce qu'elle a beaucoup voyagé, ce qui fait qu'on a un fonds comme ça qui est traité, c'est-à-dire avec une fiche, un inventaire, etc. Et voilà, ce qui fait qu'on est beaucoup contacté par des étudiants chercheurs notamment qui savent que ah ouais, ok, il y a ce document là à Lyon, à GZ. c'est un peu absurde. Enfin, c'est assez rigolo en vrai d'être contacté comme ça. Et voilà, et du coup, oui, c'est souvent des dons qu'on reçoit et ensuite on traite les fonds petit à petit.
Et vous, est-ce que vous avez une petite anecdote très rapide de l'archive qui vous a marqué, de l'histoire que vous avez découverte en militant là-dedans ? Question piège.
Oui, bonne question. Oui, je sais pas trop. En fait, non, mais c'est-à-dire que oui, moi, les archives qui me viennent, c'est un peu toutes les archives... je sais pas, qui sont intéressantes à traiter, mais qui posent beaucoup de questions sur, je sais pas, les questions de pédocriminalité, notamment dans certains magazines gays de l'époque, mais qui sont, enfin, je trouve hyper importants à conserver, et mais voilà, qui posent, je sais pas, plein de questions. Voilà, je sais pas l'anecdote fun, mais...
Non, mais c'est hyper intéressant.
C'est vrai qu'on est tout le temps. Cette question-là de la pédocriminalité, elle revient tout le temps parce qu'elle. À chaque fois qu'on fouille dans nos fonds, on est là, mais non, c'est tellement cringe. Et enfin, du coup, il y a ce côté-là d'histoire aussi, de squelette dans le placard, quoi, j'ai envie de dire, un petit peu, de comment on se confronte aussi à la partie de l'histoire des luttes qui n'est pas plaisante et qui aussi peut être clairement instrumentalisée contre nous parce que ce sujet-là de la complaisance qu'il y a pu avoir sur les question de pédophilie dans ces années-là, elle est encore vibrante aujourd'hui, quoi. Enfin, puis elle est très, enfin voilà. Donc comment on traite aussi ces archives-là qui font plaisir à personne, et comment on réfléchit là-dessus. Et si on a un fanzine lyonnais qui s'appelle Interlope et qui a été édité par le le GLH, le groupe homosexuel de le groupe de libération homosexuelle, pardon, un fanzine de 79, et dedans il y a un petit abécédaire PD avec tout ce que ça avec plein de mots et tout, et moi j'aime bien cet archive parce qu'elle elle aurait pu être écrite hier typiquement, quoi. C'est, on voit qu'il y a très peu de choses qui ont changé. Il y a toujours les mêmes questions, le rapport des PD aux lesbiennes, le rapport des PD aux gays, le rapport à la norme, le rapport à l'institution, au ghetto. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui reviennent et qui sont hyper drôles aussi. Enfin, voilà, moi j'aime bien ce document. Il est consultable en PDF sur le catalogue Big Tata.
C'est super, ça fait la transition. Avant peut-être de finir sur vos actualités, est-ce que vous avez deux mots à dire sur les réseaux et comment ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de groupes, notamment autour des archives minoritaires LGBTQIA+, qui sont mis en réseau et qui sont réappropriés des choses qui étaient plus pensées par les services publics.
Ouais, c'est vrai que le réseau Big Tata, donc c'est le réseau des bibliothèques et centres d'archives LGBT donc de France, mais aussi Belgique et Canada maintenant, et Suisse. Et on a monté ce réseau, donc c'est aussi notre initiative à mémoire minoritaire. L'idée, c'était de créer de la solidarité entre des initiatives qui nous ressemblaient, de pouvoir se transmettre un peu des savoir-faire, justement, dans l'archivage et tout. Et de se faire passer des doublons, genre, ah ouais, toi t'as ça, moi j'ai ça, viens on se les échange. Enfin, c'était de faire un peu un petit troc d'archives comme ça pour voir, pour les faire circuler, les faire bouger. Et c'était aussi de un peu contrecarrer la centralisation qui pouvait se faire avec les grandes villes et notamment avec Paris. Où voilà, le fait que Paris s'accapare très facilement et la lumière et la thune. Ouais, et du coup éviter cet effet-là et qu'il y ait une vraie circulation des subventions et des savoir-faire entre un réseau comme ça de solidaire de bibliothèques et de centres d'archives. Donc c'est Big Tata et le réseau il est fédéré autour d'un catalogue en ligne. Que vous pouvez trouver en tapant un catalogue Big Tata sur un moteur de recherche.
Et qui fonctionne très bien. Et peut-être dernière question avant de vous quitter, c'est quoi les projets de Mémoire Minoritaire, vers où vous allez, qu'est-ce que vous avez fait actuellement?
Alors il y a plusieurs choses, on a plein de petits événements, de présentation de bouquins avec des faut que j'aille rapidement peut-être, c'est la dernière question. Merci. Parce que bon, on a plein de, en tout cas on a une programmation culturelle régulière que vous pourrez trouver sur nos réseaux sociaux, notre site, notre newsletter, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon le gros projet sur lequel on travaille depuis un moment, c'est la création vraiment d'un centre d'archives pérenne. Je sais pas ce que tu veux en dire.
C'est vrai qu'on est on manque de place à Grande Zéro, et c'est vrai que même si on adore cet endroit, qu'on y est très lié de par la culture DIY et aussi édition, etc. Enfin, c'est un lieu qui nous est très cher, mais on a besoin de place, et du coup là on est en train de vraiment pousser pour avoir un local soit à Lyon soit à Villeurbanne pour qu'on puisse conserver les documents de manière carrée, quoi, tout simplement. Et aussi les thématiques un peu qui se dégagent pour la rentrée, on aime beaucoup lier la question de l'archivage et de l'auto-archivage avec celle de l'auto-hébergement et du numérique, et c'est un peu pour rebondir avec ce qu'on avait dit en début d'émission, mais avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, il y a un peu une accélération de la fascisation aussi de l'usage qui est fait des réseaux sociaux. Même si on aurait pu le voir venir quand même de loin, mais pas tout le monde. Et c'est vrai que quand on voit que Instagram ou Facebook en fait ont fait beaucoup d'argent en capitalisant sur la gestion des souvenirs et des mémoires avec les albums photos, etc. Comment en fait c'est une question dont on se réempare pour faire de l'archivage de numérique, mais qui soit anticapitaliste et autonome et auto-hébergé. Donc la question de créer ces serveurs, elle nous intéresse particulièrement en ce moment. Donc rejoignez-nous dans un futur hackerspace queer. pour creuser ces questions.
Merci beaucoup. Bah, c'est sûr que la question aussi de la dématérialisation, de la production, du savoir aussi, du savoir militant va poser plein de questions aux archives. Et merci beaucoup. Et peut-être pour finir aussi, dire que les archives, c'est aussi des personnes vivantes et qu'aller chercher des archives, c'est aussi rencontrer des gens, c'est aussi refaire du lien entre les luttes. Et quand on veut pas réinventer le fil à la coupe et le beurre, c'est aussi se rappeler qu'il y a des générations avant nous et ça permet pas forcément d'être d'accord, mais mieux se comprendre. Et que ce travail-là, il permet aussi le lien social. Et que c'est pas rien.
Yes.
Et on continue donc ce thème de la mémoire avec un petit audio sur la mémoire des morts et mortes de la rue.
Aussi la mémoire de celles et ceux qu'on a perdus. Et la lutte pour la vérité et la justice. Les morts, les mortes aux frontières, les victimes de féminicide aussi. Alors qu'en France, 1185 femmes ont été victimes de féminicides ou de tentatives de féminicide directes ou indirectes au sein de leur couple en 2023. Et donc cette question-là, de la mémoire des morts et des mortes, je voulais la mettre en perspective avec les travaux de l'incroyable philosophe Judith Butler, notamment son texte « Ces corps qui comptent ». Et donc dans ce texte, elle montre comment le féminicide est avant tout une menace pour les vivantes. Elle nous explique: si l'objectif est l'extermination, alors le meurtrier ne peut plus exercer sa domination. Personne ne peut dominer les morts. Les vivantes, elles aussi, sont exposées à cette menace. Elles sont incitées à se subordonner pour échapper à ce destin. Dans ces conditions, les femmes sont vouées à se subordonner ou à mourir. Aussi individuelles et atroces soient ces morts, elles s'inscrivent dans une structure sociale qui a établi que les femmes ne sont pas pleurables. Donc aujourd'hui, en reprenant un peu ce texte de Judith Butler, je voulais parler un peu de vies qui sont considérées comme peu pleurables, celles des personnes qui meurent dans la rue parce qu'elles sont sans logement. Le collectif Les Morts de la Rue fait un travail de recensement, il décompte 855 décès en 2024, tous à cause de la rue. La liste de leurs prénoms et lieux de décès est actualisée sur le site du collectif. Et cette liste, elle permet de laisser une trace, mais aussi de retrouver des disparus, de soutenir les proches dans cette épreuve, parfois de payer les frais des obsèques. Et le collectif organise aussi tous les ans une cérémonie, une lecture des noms en leur mémoire. Revenons donc à Judith Butler qui parle de pleurabilité et de l'importance du deuil. Elle nous dit « Ce que je veux dire, c'est que les individus ne peuvent être pleurés ou être envisagés comme pleurables que dans la mesure où leur mort est reconnue comme une perte. » Or, la perte ne peut être reconnue que si les conditions de reconnaissance sont établies. Dès lors qu'une vie ou un ensemble de vies est considérée comme indigne de deuil, ne cesse-t-elle pas d'être considérée comme vivante ? Suis-je une vie ? La perte de cette vie importe-t-elle ? Quels sont les corps qui comptent et pourquoi ? Vivre dans le monde en tant que vie susceptible de deuil, c'est savoir que notre mort sera pleurée, pourra être pleurée. C'est avoir le sentiment de vivre dans un monde où notre vie compte. C'est aussi savoir que cette vie sera protégée à cause de sa valeur, qu'elle bénéficiera d'un soutien infrastructurel nécessaire pour vivre dans un monde avec un avenir ouvert. Donc dans ce texte, et puis dans sa philosophie en général, elle s'inscrit dans la suite de la pensée de Michel Foucault, qui définit la biopolitique comme le pouvoir de faire vivre ou de laisser mourir. Et ce pouvoir, il ne s'exerce pas à partir d'un centre souverain, il a plutôt de multiples instances de pouvoir pour gérer des populations vivantes, décider de les faire vivre ou de les laisser mourir. Il y a beaucoup de personnes qui meurent dans la rue dont le décès n'est pas compté, parce qu'elles ne sont pas directement tuées, on les a laissées mourir. Parce que la rue, elle abîme, elle prive de soins, l'espérance de vie y est réduite à seulement 49 ans en moyenne, soit plus de 30 ans de moins que pour l'ensemble de la population. Et on pense par exemple à Karamba Diaby, qui est un ancien habitant du squat de Denusière qui est décédé le 19 mai dernier à l'hôpital des suites d'un cancer. On ne l'oubliera pas. Qu'est-ce qui se serait passé si les institutions ne l'avaient pas laissé à la rue? S'il avait pu se soigner correctement? Si son corps n'était pas abîmé par des années de galères, de rue, de répression, de mépris? Dans la métropole lyonnaise, on compte au moins 22 personnes mortes de la rue en 2024. On s'est dit que ce serait important de lire leurs noms, parce qu'il y a eu un hommage à Paris, mais pas localement ici dans la métropole lyonnaise. Donc les morts de l'année 2024, c'est Nénad, 55 ans, qui est mort le 21 juin à Vaux-en-Velin. Serge, 68 ans, mort le 29 mai à Lyon 7. Yves, dit Jim, 62 ans, le 17 avril à Lyon 7. Trajan, 65 ans, le 22 avril à Lyon 4. Thierry, 63 ans, le 1er mai à Lyon 3. Laurent Bragard, 57 ans, 14 juin à Villeurbanne. Jaffan, 35 ans, le 3 août à Lyon 7e. Jacques, 63 ans, le 16 août à Villeurbanne. Virgile, 69 ans, le 8 septembre à Lyon 9. Hadj, 27 ans, le 28 septembre à Lyon 3. Michel, 65 ans, le 28 septembre à Lyon 3e. Elisabeth, dite Elisabetta, 42 ans, le 20 octobre à Lyon 4. Nenad Safar, 48 ans, le 23 octobre à Lyon 2e. Karim Mansouri, 55 ans, le 24 octobre à Lyon 5e. Un homme non identifié, âgé d'une quarantaine d'années, le 10 novembre à Lyon 7. Bogdan, 71 ans, le 10 novembre à Lyon 4. Émile, dit Emilio, 39 ans, le 11 novembre à Lyon 2. Abderrahman, 54 ans, le 20 novembre à Lyon 1er. Giuseppe, 63 ans, le 21 novembre à Lyon 7. Anthony, 37 ans, le 7 décembre à Villeurbanne. Mariano, 31 ans, le 12 décembre à Lyon 5. Et Sonia, 27 ans, le 3 décembre à Caluire-et-Cuire. Sonia, c'était aussi une habitante du squat de Denuzière à Caluire. C'est une figure de la place Mazagran qui est aussi appelée le potager. On l'écoute en parler.
Si en fait, c'est vraiment un lieu de recueil en quelque sorte. Quand t'as vraiment nulle part où aller, c'est que le potager. On appelle ça le potager. Le parc orange pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le potager. Quoi. Tu viens au potager, tu vas voir des gens, tu vas leur parler. C'est un endroit où on va tous être ensemble et même si on ne vient pas du même endroit, bah, on va tous s'aider.
Dans la nuit du 2 au 3 décembre, un incendie se déclare au squat. Il faudra plusieurs jours pour en être sûr. Sonia est décédée dans l'incendie. Mais pas de temps pour le deuil. Les habitants et habitantes sont mis à l'abri seulement une nuit dans un gymnase, nassés et contrôlés le lendemain devant la préfecture, et sont encore à la rue aujourd'hui. En mai, alors qu'un projet de mise à disposition de bâtiments est monté par différentes associations, promettant 80 places d'hébergement pour les anciens et anciennes de Denuzière, la métropole renonce après des mois de réunions, des visites de bâtiments et malgré plein de promesses. Mais la lutte continue, par des actions, des occupations, des manifestations, jusqu'au logement. Et pour Judith Butler, lutter, c'est aussi résister à la présomption de son incapacité à faire l'objet d'un deuil. Elle dit qu'en s'exposant dans le contexte d'une manifestation, ils font apparaître le risque de mort ou d'expulsion, ils le mettent en évidence, ils font un pari et formulent une revendication. En revendiquant le droit d'obtenir des papiers, le droit de circuler librement, le droit d'entrer, ils ne surmontent pas leur vulnérabilité, ils la manifestent. Ils ne transforment pas miraculeusement la vulnérabilité en force, mais ils exigent que la vie soit soutenue afin de perdurer. Donc en fait, faire mémoire, commémorer nos mortes et nos morts, c'est aussi sortir de l'urgence de la lutte et de la survie, pour se rappeler d'elles et eux, assumer notre colère et notre peine, faire le deuil des vies perdues. Et c'est se rappeler pourquoi on lutte. Parce qu'on ne veut plus jamais ça, parce que la rue tue. Le 24 mars 2025, des proches de Sonia se rassemblent Place Mazagran pour honorer sa mémoire et rebaptiser la Place Mazagran en son nom. Place Sonia Guaiti, la reine des abeilles, tuée par l'inaction des pouvoirs publics dans l'incendie du squat de Nuzière, tuée du mal logement. Mazagran, c'est le nom d'une bataille victorieuse de l'armée coloniale française sur celle du peuple algérien, en 1840. Parce que oui, pour ça, il y en a des noms de rues, des statues, des monuments. Alors c'était qui, Sonia ? Un texte écrit par une de ses camarades et amies nous donne un aperçu. Hommage à la reine des abeilles. Tout le monde connaît son nom. Sonia est la femme portée disparue du squat de Denuzière. Elle est décédée dans l'incendie du lieu, la nuit du 2 au 3 décembre. Elle pourrait être une morte anonyme de la rue en plus. Mais parce que cette mort est insupportable, il faut qu'on l'écrive. D'abord parce que cette mort aurait pu être évitée. Les pouvoirs publics ont une responsabilité immense dans cet accident et on ne cessera de le dire. Tous, État, métropole, mairie, ont dénié leurs responsabilités à un moment ou à un autre. Notamment en proposant des mises à l'abri inadaptées, normées et conditionnelles. Les médias aussi, en contribuant à une importance graduelle des morts. Pour n'en citer qu'un, Le Progrès parle d'une personne en situation régulière. Quelle importance ? Sonia était française. En plus d'être fausse, cette affirmation est raciste. Pourtant, toute la guillotière connaît Sonia. Déjà parce qu'il est impossible d'avoir eu ses habitudes au court-circuit ou à la place Mazagran sans l'avoir croisée. Les voisins et voisines de la place ont tous entendu sa voix, parfois tard la nuit, où elle appelait ses proches. Pilier de la place, elle connaissait toutes les personnes par leur prénom et échangeait avec toutes les communautés qui y passent du temps. Des larmes ont coulé sur toutes les joues le soir de la découverte de sa mort. Sonia était une personne solidaire qui a rendu tous les services. Présente dans plusieurs squats, proche des enfants, sa présence a toujours marqué, en bien, parfois en mal. Loin de l'idée d'un parcours lisse, d'une vie facile, elle a souvent pris à deux mains des chaises pour les écraser sur la tête des hommes qui lui manquaient de respect. Et elle est à ce titre une icône misandre à part entière. Sonia, j'aimerais parler de ta personnalité, de ta passion pour la boxe et le dessin, de ton franc-parler inégalé. Mais j'ai le sentiment que parler de toi, de qui tu étais, quelque part, c'est me résoudre à faire mon deuil. Or, ni deuil ni résignation ne sont possibles tant que les conditions qui ont mené à ta mort n'ont pas changé. Tant que les coupables de ton décès ne sont pas nommés et inquiétés. Sonia, ton absence laisse un vide irremplaçable qu'il est aujourd'hui impossible d'accepter. Notre peine est immense et n'a d'égal que notre colère. Nous n'avons qu'une promesse, c'est d'être pire qu'avant. C'est de continuer chaque jour à se battre contre le mal logement, l'état raciste, l'anonymat de ses victimes et l'indifférence. Nous avons des armes, la solidarité, l'amitié, les blagues, la lutte. N'oublions pas son nom, ni aucun autre. Pour Butler, nous devons revoir notre conception de l'égalité afin de comprendre désormais le deuil comme un attribut social devant être soumis à des normes égalitaires. En d'autres termes, il n'y aura pas d'égalité tant qu'il n'y a pas de deuil égal ou d'attribution égale du deuil. La possibilité de faire l'objet d'un deuil est une condition nécessaire de l'égalité. Pour Sonia et pour toutes les autres, ni oubli ni pardon. Et pour éviter d'autres morts, on se mobilise pour un logement digne pour toutes et tous.
Et vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, c'est le Canus Info du lundi 9 juin. C'est une émission spéciale sur le thème des mémoires des luttes qui arrive à son terme. C'était vraiment super bien. Et on passe tout de suite à l'agenda quand même.
Un agenda qui est tout aussi dense que l'émission. On rappelle que tous les jours, il y a des piquets anti-expulsion organisée par le DAL et qui tiennent le coup depuis 2 mois. Et donc, vous pouvez y aller à partir de 5h45 au 22 rue Champagneux dans le 8e arrondissement. N'hésitez pas à les rejoindre et soyons solidaires face aux proprios expulseurs. Mercredi. Alors, accrochez-vous pour mercredi, il y a 3 choses très intéressantes. On commence avec la conférence débat « Sommes-nous dans le fascisme ?», une vraie question, organisée par le comité de quartier de Villeurbanne au Toy Toy de 18h à 21h, qui sera suivie d'une soirée avec des DJ sets. À mercredi à Lyon, si vous voulez changer de ville, dans le cadre des 20 ans du site d'info, une soirée à la de rébellion, je vais y arriver, une soirée à l'atelier des canulars est organisée, c'est dans le 7e arrondissement, de 18h, autour donc des médias libres. Il y aura des écoutes, des tables rondes et des proches. Et en parlant d'écoutes, il y a une excellente émission évidemment de Radio Canu qui s'est tenue mardi dernier, c'est Minuit décousu, et qui parle des 20 ans de rébellion et des histoires de serveur, donc ça fait un lien parfait avec ce dont on vient de parler. Toujours mercredi, il y a une présentation du livre Danse avec les luttes sur une écologie décoloniale et des quartiers populaires à la librairie La Tanière à 19h, c'est dans le 8e arrondissement, dans le quartier des États-Unis. Jeudi 12, dans les cadres toujours des 20 ans de rébellion, il y a une soirée projection du film L'histoire des gilets jaunes par nous. C'est marrant, on en parlait aussi tout à l'heure, comme quoi tout est lié. Et c'est à 19h à l'atelier des canulars.
Et vendredi, il y aura la venue de Beto Pianelli, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, désolé pour l'accent, la CTAT. Bref, un syndicaliste argentin qui viendra parler de la situation en Argentine vendredi à 18h à la Bourse du Travail. C'est organisé par Solidaires Rhône, Émancipation, la CNTSO et le Réseau Syndical International de Solidarité et de Lutte.
Samedi 14, toute la journée au Parc Blandan, il y a le festival Confluence des Luttes. Il y a aussi la Pride samedi à 13h au départ de Jean Massé jusqu'à la Tête d'Or. À 14h, il y aura un départ de Manif Palestine. Et d'ailleurs, les collectifs de soutien à la Palestine vont mettre en place des événements tous les jours à 19h. Donc voilà, on va se tenir un petit peu informés. Le soir, il y a une soirée d'anniversaire pour les 20 ans de rébellion à Grande Zéro à Vaux-en-Velin. Et enfin, dimanche, de 14h à 22h, c'est la fête de fin d'année de l'illégalité à QC à Villeurbanne. Voilà.
Et c'est la fin de ce Canus Info après ce gros agenda, puisqu'il n'y a pas que les mémoires des luttes, mais aussi les luttes de la semaine à venir.
Et allez, on vous retrouve dans un mois.
Et on vous laisse avec les bandes continues de Radio Canus.
Radio Canu, la radio que tu aimes bien. On vient d'écouter dans l'ordre Alien Sculpen avec Fly With Me, The Actor avec Modern Air, Minitel Rose avec When I Was Punk.
barre. Personne sur mon trottoir, y'en a marre de cotiser pour tous ces assistés. Ils n'ont qu'à aller bosser et investir pour s'enrichir. Papa m'a refilé sa boîte, on bosse comme des dingues. L'argent ne tombe pas du ciel, faut mériter pour ramasser. On va partir en Chine, la France c'est compliqué. Toujours à gratter